Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, vendredi 20 mai, la canicule, le télétravail, on cuisine à la maison et tout cela profite aux produits surgelés. Alors comment s'organisent les géants du secteur? Autour de la table de La France bouge, la patronne de la maison Thirier, maison vosgienne depuis 1902 et elle est l'invitée aujourd'hui de La France bouge. À la une donc, les surgelés et comment conserver le mieux possible nos aliments. On a trouvé une start-up qui a réinventé la conservation des aliments sous vide. Elle s'appelle Beauty Food et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, je vous emmène près de Bourg-en-Bresse pour découvrir l'entreprise de camions frigorifiques Lambéret. Elle existe depuis 1935. C'est la saga du jour. Rendez-vous à 13h30 pour le récit de Quentin Paillet. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire, la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on va recevoir persil et romarin. C'est des chefs qui viennent chez nous pour... Ah, c'est joli. Mmh. Oui, mais c'est pas des aromates, c'est des chefs qui viennent nous cuisiner tous nos plats de la semaine.
Rendez-vous à 13h45 pour les découvrir. Et puis en fin d'émission, demain, je change de vie. Pauline Badin travaillait dans la communication. Aujourd'hui, elle élève des poulets de Bresse dans le Jura. Et oui, c'est ça. La France bouge, on ose, on a de l'audace, on y va. Bienvenue, vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici que ça se passe. C'est à La France bouge et les températures ont beaucoup augmenté ces derniers jours. Il a fait chaud. C'est aussi peut-être pour cela qu'une vigilance orange pour orage violent est en cours là en ce moment. Alors c'est peut-être le moment aussi d'ouvrir son congélateur, de voir ce qu'il y a dedans. Le succès des produits surgelés ne se dément pas, ça se poursuit. Quelles sont les innovations? Et on en parle avec notre invité du jour et avec nos startups jusqu'à 14h. Bonjour Christiane Bertoncini.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue dans La France bouge.
Merci pour votre invitation.
Vous êtes la directrice générale de la maison Thirier. Ça a été fondé en 1902 dans les Vosges, spécialiste des produits surgelés. Il y a 3000 salariés au sein de la maison Thirier. Vous êtes présent dans toute la France. Et alors vous, votre particularité, pour qu'on comprenne bien, c'est que c'est ce qui vous différencie hein, des autres grands groupes de surgelés, c'est que vous, vous êtes à la fois distributeur, mais aussi fabricant de plats surgelés. Pendant les périodes de Covid, on le sait, ça a énormément marché. Rien que chez vous, à la maison Thirier, il y a eu une hausse de 30% en termes d'achat. Est-ce que ça continue? Est-ce que ça perdure, Christiane Bertoncini?
Oui, alors effectivement, après avoir connu une évolution de notre chiffre d'affaires de plus 30% en 2020, on a un peu réitéré l'exploit puisqu'on a refait un plus 1 sur un plus 30, ce qui était très honnêtement un gros défi. Et à l'heure actuelle, on s'est fixé comme objectif de réitérer cet exploit cette année en s'inscrivant dans une dynamique de chiffre d'affaires équivalente à l'année dernière. Pour l'instant, on est sur un plus 8, un moins 8, pardon, mais on n'est pas
beaucoup
inquiet. On n'est pas inquiet parce que les 400 000 nouveaux clients qu'on a conquis l'année précédente sont toujours là. Et puis surtout, on a sur les 4 premiers mois de l'année un historique qui était complètement dingue puisqu'on avait des progressions de chiffre d'affaires de l'ordre de plus 70 à 80%. Je rappelle qu'à l'époque,
plus 70 à 80%.
C'était énorme. À l'époque, nous étions en télétravail, en couvre-feu à 100%. Et donc, je compte beaucoup sur les 8 derniers mois de l'année, puisque nous avions un été l'an dernier qui n'était pas extraordinaire en météo. Et nous sommes très sensibles à la météo, puisque nous sommes aussi gros vendeurs de glace. Et donc, on est très serein sur la possibilité de réitérer cet exploit en 2022.
Donc, ça va bien, on l'entend. Vous avez dit que vous aviez eu 400 000 nouveaux clients. Donc, on espère qu'ils vont rester. En tout cas, on vous le souhaite.
Merci.
C'est qui est votre clientèle? Qui achète Thirier?
Alors, on a deux types de clientèle qui se partagent un petit peu le marché, puisqu'on est une entreprise omnicanale. C'est-à-dire qu'on est à la fois très présent en livraison à domicile, et donc là, plutôt dans des zones périurbaine, rural, et très présent en magasin dans des grosses agglomérations. Donc on a à la fois des familles qui composent notre clientèle et aussi des personnes âgées ou des personnes qui cherchent des solutions repas toutes faites à travers les produits surgelés.
Nathalie Carré.
Alors pour revenir sur les surgelés, je lisais que 67% des Français déclarent que les produits surgelés sont de bonne qualité. Bon. D'où vient cette croyance qui est erronée, puisque dans le frais comme dans le surgelé, dans la quatrième gamme, on trouve de tout. Enfin, il y a du bon et du mauvais. Qu'est-ce qui fait que les Français sont persuadés que le surgelé, c'est forcément de bonne qualité?
Eh bien, écoutez, les surgelés, en fait, de par leur mode de conservation, préservent de façon extraordinaire les qualités organoleptiques des produits. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est une garantie intrinsèque du produit. Et si on poursuit le raisonnement, les produits surgelés, si vous voulez, qui se déroulent, qu'on trouve de l'entrée jusqu'au dessert, ont toujours eu une démarche très forte, que ce soit sur tout le marché en France, ont toujours eu une démarche très centrée sur des cahiers des charges extrêmement rigoureux, sur des sélections de matières premières, sur du clean label.
Oui, mais là, vous parlez de ça, mais nous, on ne peut pas s'empêcher de penser à Buitoni, hein.
Alors,
non mais c'est vrai, la pizza,
mais c'est vrai, non, mais
il y a eu une
vrai.
Baisse d'ailleurs hein, des achats de pizza surgelée, donc évidemment il y a une crainte qui est évidente et naturelle de la part des consommateurs.
Alors bon, il y a une baisse des ventes sans doute de pizza, c'est chez Buitoni, chez nous il y a une augmentation
des ventes. Pizza surgelée, hein,
voilà.
Tout le secteur est touché.
On est bien entendu. Juste pour vous situer, nous on a encore regardé les chiffres hier, le secteur des la catégorie des pizzas a explosé chez nous.
Alors, quand
depuis la crise de Buitoni, puisqu'il y a eu un déport, il y a eu un transfert de consommation. Alors, moi, je ne suis pas suffisamment informée sur ce qui s'est passé dans le détail chez Buitoni.
Non, mais on n'est pas là pour, et je pour me permettrai faire pas l'enquête. De, voilà. C'est juste par rapport à voilà. la réaction
c'est
des consommateurs.
Votre marque rassure, en fait. Vous avez su créer une réassurance.
Voilà, la marque rassure fortement, mais il faut aussi expliquer que la marque a toujours eu une démarche qualité extrêmement soutenue. Et je vous prends un exemple concret. Quand, sur tous nos packagings, nous avons 1800 produits, quand sur tous nos packagings, nous mentionnons à côté de la marque nos signes qualité, c'est-à-dire tout ce qui distingue nos produits et qui font que nos produits ont des ingrédients, des bénéfices qualité supérieurs à ceux du marché. Quand on va jusqu'à les afficher sur le packaging, vous pouvez être certain qu'on est conscient de ce que l'on fait, qu'on est serein, qu'on est sincère et qu'on est responsable et avant-gardiste sur ce sujet-là.
Et c'est intéressant ce que vous dites, Christiane Bertoncini, parce que vous fabriquez tout. Et donc c'est là aussi que vous avez vous ne déléguez rien à personne, vous fabriquez tout au sein de vos propres usines. Hein. Vous avez vos usines, elles sont situées où ?
Alors effectivement, alors juste une petite parenthèse sur la fabrication. J'ai beaucoup de respect pour la distribution, j'en viens. Le retail c'est extrêmement important, mais j'ai une vraie conviction sur le fait que le pouvoir et la création de valeur, elles se situent sur l'amont, c'est-à-dire sur la capacité capacité d'aller trouver des ingrédients nobles, des recettes spécifiques, des solutions à façon. Et actuellement sur le marché, il n'y a aucun autre acteur. Je dis bien aucun autre parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur nos confrères. Il n'y a aucun autre acteur qui fabrique ces produits et qui les distribue. Nous sommes un peu un ovni sur ce sujet-là.
Que vous fabriquez toute la chaîne de fabrication. C'est-à-dire que, non, bien sûr, si vous voulez chercher des bonnes aubergines, vous n'allez pas les prendre en France.
Voilà, on a 87% de nos produits qui sont français. Et évidemment, on a des origines qui sont légitimes. Quand on va choisir de faire nos pizzas en Italie ou choisir l'aubergine grillée, on va la faire en Italie parce que l'Italie est aussi une origine noble et sur certains produits, elle est légitime. Nos poissons, par exemple, viennent d'origine. Alors, on ne peut pas tout produire en France et tout fabriquer en France, donc on respecte ça. Mais quand on a 87% de 1800 produits qui sont origine France, vous vous doutez bien qu'il y a une vraie volonté.
Il y a une vraie volonté, mais d'ailleurs, c'est votre marque de fabrique aujourd'hui. Hein. Vous êtes en train de vous orienter vraiment sur le quasiment le fait maison, la qualité. Qui élabore vos plats ? Vous avez des chefs qui travaillent avec vous ?
Alors, on a des meilleurs ouvriers de France qui sont salariés de la maison Thierrier, qui travaillent dans une équipe recherche et développement qui est basée à Éloi. On y a 17 personnes, ingénieurs qualité, qui développent des recettes. Et 100% de nos recettes sont exclusives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver une recette exclusive à la maison Thierrier dans une autre entreprise,
quelle qu'elle soit. Parce qu'une lasagne, c'est une lasagne.
Oui, mais ça, non. Par exemple, je prends un exemple, très bon exemple. La lasagne que vous citez, au sein de la maison Thierrier, nous avons un C sur P, c'est-à-dire le collagène sur protéines, qui est inférieur à 15%. Alors que le marché se situe aux alentours de 20-25%.
Je ne sais pas ce que c'est le collagène.
Alors, le collagène sur protéines, quand vous mangez de la viande de lasagne, vraisemblablement, Elisabeth, il vous arrive parfois d'avoir sous la dent des tendons qui craquent. La viande un peu plus dure.
D'accord.
C'est du collagène.
Je ferai attention.
Et au sein de la maison Thierrier, la viande, elle va être tendre parce qu'on a sélectionné dans un cahier de charge un collagène sur protéines qui est inférieur à 15%. Donc là, on rentre dans le détail, mais
c'est important, ça nous permet de
la qualité et jusqu'où elle va.
De comprendre que vous faites attention à la qualité des produits fabriqués en France. 17 meilleurs ouvriers de France, un salarié.
Non, 10, un meilleur ouvrier de France et 17 ingénieurs qui travaillent à ses côtés.
Un meilleur ouvrier de France, 17 ingénieurs au sein de la maison Thierrier. Christiane Bertoncini, vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, les pépites françaises. Et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui, Christiane Bertoncini. Vous êtes la directrice générale de la maison Thirier. Et oui, aujourd'hui, on parle de produits surgelés. Il a fait très chaud ces derniers temps. On a tous eu envie de manger davantage de glace, de sortir un petit peu tout ce qu'il y avait dans le congélateur. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de vous avoir. Vous nous l'avez dit, Christiane Bertoncini. Le succès des surgelés ne se dément pas. Et vous, votre particularité, c'est que vous êtes fabricant et distributeur. Vous prenez la qualité au sein de vos usines, hein, vous allez choisir le bon petit producteur, hein, le tout, voilà, pour que tout soit maîtrisé à 100%. Justement, je voulais vous demander, Christiane Bertoncini, combien de temps ça se conserve un produit surgelé ?
Écoutez, en général, ça peut varier. Alors, on fait des tests organoleptiques, ce qu'on appelle des tests de vieillissement, pour voir comment le produit se comporte. Ça peut aller, ça dépend, ça peut aller entre 12 et 24 mois pour avoir une qualité organoleptique qui est maximale. Alors, ça ne veut pas dire qu'au-delà, la santé du consommateur va être en danger. Ça veut dire simplement que jusqu'à ce point-là, la qualité organoleptique est la plus maximale pour la consommation.
Pour les protéines, les nutriments, je veux dire.
Exactement. Et même en matière de goût.
Donc entre 12 et 24 mois.
Oui.
Mais finalement, quand on fait le tour, hein, depuis le congélateur et les réfrigérateurs, hein, depuis environ 130 ans, on n'avait rien inventé de nouveau pour bien conserver les aliments. Et évidemment, nous, à la France Bouge, on a trouvé un inventeur pour conserver les produits. Bonjour Jean-François Bourec.
Bonjour, enchanté.
Bienvenue dans la France Bouge. Vous êtes le fondateur de Beautiful Food, ça s'écrit BIOTYF2OD, ça a été créé en 2020. Et alors vous, elle va bientôt sortir, mais on a eu un tel coup de cœur qu'on s'est dit non, il va venir à la France Bouge, parce que vous avez inventé une solution de conservation, une nouvelle solution révolutionnaire de conservation alimentaire grâce à des bocaux en verre. Mais j'ai envie de vous dire, les bocaux en verre, c'est quand même vieux comme le monde.
C'est vieux comme le monde, mais surtout c'est un vrai récipient sans contaminant.
Alors, vous l'avez apporté, décrivez-le nous. Parce que là, pour l'instant, ça ressemble à un Tupperware. Enfin, en verre.
Ça ressemble plutôt à un verre borosilicate, parce que ce sont des verres qui passent au micro-ondes, au four, au congélateur, qui n'ont aucun problème pour aller au lave-vaisselle. On n'a pas besoin d'enlever les joints, ils sont complètement compatibles. Ça ressemble un petit peu à, effectivement, à un plat qui est solide.
Ou parce un Pyrex.
Un Pyrex, parce que cette gymnastique-là, on l'a souhaité pour pouvoir être très très mobile. En fait, on peut se servir de A à Z de ce plat, depuis la cuisine, donc cuisiner dedans, passer au micro-ondes, le mettre en congélation et bien sûr le mettre sous vide.
Donc on peut l'utiliser à tout moment.
On peut l'utiliser à tout moment.
Au réfrigérateur, au congélateur, au micro-ondes, tout le temps.
Exactement, et on fait un seul cycle, pas de vaisselle, en tout cas juste le bocal, et on a juste besoin de complètement gérer ce qu'on va manger. La machine, elle pèse, elle va pouvoir donner en fait des informations.
Donc c'est vendu
de date.
Avec une machine.
C'est vendu avec la machine qui va aspirer le vide.
C'est une balance, c'est quoi ?
C'est les deux. Ça fait une balance parce que ça va peser ce qu'on met comme aliment. Par exemple, vous faites un régime keto, vous allez mettre 200 grammes de poulet, 300 grammes de maïs et 25 grammes de verdure. Et la balance va vous dire exactement comment vous avez préparé votre plat. Puis après, c'est très simple, il n'y a qu'à faire une pression. C'est ça l'avantage et l'innovation totale de ce brevet, c'est qu'il est extrêmement pratique. Il rénove complètement l'idée du sous-vide. Car le sous-vide, ça vient un petit peu du monde industriel, en fait. C'est un sous-vide qui a souvent été pas très pratique. On met des poches en plastique, on fait une poche à usage unique, on fait une soudure, ça génère des phtalates, c'est pas bon pour la santé, etc. Alors que là, vraiment, on est dans un récipient totalement en verre, totalement inerte en termes de contamination, ce qui fait que ça lui procure en fait des vertus extraordinaires.
Mais quelles vertus ?
On ne contamine pas les aliments. En fait, quand j'ai développé cette société, j'ai été choqué par le fait que c'est très difficile de s'alimenter sans qu'il y ait des choses qui viennent contaminer les aliments. Il y a toujours des emballages, il y a toujours de l'aluminium.
Tout ça, ça contamine.
Et ça contamine. Par exemple, les plastiques, les molécules de plastique, tous les plastiques souples.
Ce qui est le principe du sous-vide.
Du sous-vide plastique.
Plastique,
mais
bien sûr.
Il faut lutter contre
c'est
ça.
C'est celui que nous connaissons, c'est vrai.
Il faut lutter contre ça, parce qu'en fait, les plastiques souples ont des molécules qui vont migrer dans les aliments. Et ça, c'est vraiment très mauvais. D'autant plus qu'on fait une soudure qui, elle, génère des phtalates. Et ça,
donc,
c'est
ça
très mauvais pour la santé.
Donc, ça conserve l'aliment dans sa totalité. Donc,
dans son intégrité. Parce qu'on va conserver dans le vide qu'on fait. On fait un vide à 0,2 bar. C'est très, très bas. Et du coup, on va très bien conserver.
Donc, on pose le contenant sur la plateforme. Et automatiquement, le vide se fait tout de suite.
Exactement.
Et on n'a pas besoin de recharger. Nathalie Carré.
Non.
Alors vous avez peut-être vu, il y a plein de fabricants de frigidaires qui sortent des systèmes fraîcheurs, machin et tout, pour mettre nos légumes et les garder longtemps. Bon, ça marche pas du tout. Hein. Est-ce que
vous avez essayé?
J'ai essayé, ça n'a jamais marché. Mais en revanche, effectivement, votre solution, elle serait idéale en complément. Est-ce que vous avez déjà contacté des fabricants de réfrigérateurs pour qu'on vende, bah voilà, le frigo plus votre solution qui remplacerait leur système fraîcheur?
Alors, on a eu un contact effectivement par un fabricant de réfrigérateurs, mais pour l'instant, on est très concentré sur la mise au point en fait du système pour les finalement les consommateurs au sens large. C'est un système qui est assez compliqué parce qu'en fait le sous-vide, c'est pas naturel sur la terre. La plupart des choses sont en pression, les cafetières, votre frigo justement, la voiture, son radiateur, tout est en pression et la dépression est relativement rare. Et donc les mises au point sont assez inventive. Il faut toujours trouver un chemin pour trouver des solutions. En plus de ça, c'est une start-up dans le monde industriel. C'est pas si évident.
C'est compliqué. À moins de vous faire racheter, c'est compliqué. Vous avez déposé des brevets. Hein, vous avez parlé de brevets.
J'ai déposé 5 brevets, effectivement. Et l'univers du verre, finalement, il est assez capitalistique. Donc, c'est pas évident de développer tout ça.
C'est pour ça que vous êtes ici aussi, voilà. Hein, parce que ça sort en octobre 2022.
On sort en octobre 2022.
Et vous serez distribué sur votre site Beauty Food. Qu'en pense notre grande patronne du jour, Christiane Bertoncini, directrice générale de la maison Thirier?
Écoutez, on en a parlé un peu en coulisses. Je trouve l'idée très intéressante, d'autant que on en a parlé. La finalité, elle n'est pas nécessairement que en B2C.
On peut tout à fait avoir le consommateur.
Oh, consommateur, excusez-moi. Mais on peut tout à fait avoir des sources de développement qui peuvent être, qui peuvent intéresser des entreprises, des grands groupes. Donc il y a une technologie qui peut se transférer. Et puis bon, on a un sujet en commun, hein, puisque que ce soit le surgelé ou ce brevet-là, on lutte activement contre le gaspillage.
Mais c'est ça.
On est tous consommateurs et on est tous frappés de ce que l'on jette, malheureusement, régulièrement, quotidiennement. De nos congélateurs parce qu'on n'a pas su gérer correctement sa gestion des stocks. Et que ce soit le surgelé, et notamment grâce aux technologies que sont l'IQF ou là, ce type de brevet, ben, lutte. Et c'est à tout petit niveau, mais c'est aussi dans la...
Faire quelque chose avec Beauty
Food. On
en parlait en coulisses, donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes, effectivement.
Comment vous luttez, vous, contre justement, pas seulement contre le gaspillage, mais concernant les emballages? C'est un vrai sujet. Il y a plus de plastique chez vous, c'est quoi?
Alors, on réduit au maximum le plastique.
Donc c'est pas encore banni.
Non, on privilégie le carton, mais il y a aussi une idée reçue sur le plastique, parce que là aussi, il y a du plastique qui est recyclable, qui est tout à fait noble, mieux parfois que le carton, contrairement aux idées reçues. Donc là aussi, il y a un travail à faire, si vous voulez, entre ce que l'on veut faire et ce que perçoit le client, avec, je dirais, un process sur le plastique qui n'est pas toujours justifié au regard notamment du carton actuellement. Donc on y travaille, on réduit les emballages, et effectivement, le verre est une solution, mais le verre dans l'élément, c'est un vrai sujet. On a beaucoup travaillé sur les pots de glace en verre, mais c'est terrible parce que le verre, il suffit d'un petit accroc et on peut avoir des débris.
Ah oui. Donc c'est dangereux pour
l'alimentaire.
L'ambition pour vous.
Il faut des verres solides.
Voilà. Jean-François Bourec, vous, c'est d'internationaliser. Hein. L'idée, c'est de vous être vendu partout dans le monde avec votre procédé révolutionnaire.
C'est exactement ça. C'est plusieurs brevets, mais Beauty Food, c'est un énorme enjeu. C'est un enjeu qui va bien au-delà en fait de la consommation vers le particulier. C'est un enjeu qui s'étend vers les univers professionnels, dans les restaurants, les collectivités ou les gisements.
Donc ça pourrait être eux, vos clients?
Pas que, c'est que là, aussi. En tout cas, ce qu'on chasse, c'est les gisements de gâchis alimentaire. Le gâchis alimentaire, ça va devenir en fait déjà un enjeu sociétal.
Combien de temps ça dure là, avec vous, avec votre boîte, un aliment même pas congelé, hein, chez
non
vous?
Non congelé, par exemple des avocats, on va les garder 3 semaines
en
date
semaines
de fraîcheur absolue.
Ah bah là,
c'est comme
comprend.
Si on venait de les cueillir. Ça garde surtout les qualités organoleptiques, donc les vitamines, les antioxydants. Demain, vous allez faire de la préservation, vous allez chercher vos belles tomates du marché. Au lieu de les laisser dans votre saladier sur la salle de séjour, vous allez les mettre tout de suite sous vide, parce que ça va figer leur dégradation.
Et elles durent combien de temps chez vous, les tomates, avec votre solution?
Ça peut durer plusieurs dizaines de jours.
Je suis sûre qu'on va en entendre parler.
Ça
s'appelle Beauty Food. Merci Jean-François Bourec d'être venu aujourd'hui dans la France Bouge. Il est 13h26 sur Europe 1.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Évidemment qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Et aujourd'hui, on parle de nos produits surgelés. Oui, on a eu chaud la semaine dernière, alors nous on s'est dit, mais on va faire un gros plan sur les produits surgelés. On a eu envie de manger plus de glace et pour cela, on a choisi un acteur français qui s'appelle Maison Thirier, sa directrice générale Christiane Bertoncini, et l'invité aujourd'hui de La France Bouge. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors vous nous l'avez dit, Christiane Bertoncini, ça marche bien. Vous avez explosé les compteurs pendant la crise sanitaire. Ça continue parce que vous, ce qui fait votre particularité, votre singularité, c'est que vous êtes à la fois fabricant, mais aussi distributeur hein, des produits. C'est assez étonnant parce que quand on fait un petit sondage, nous, la rédaction à Europe 1, elle est à Paris. En général, les Parisiens connaissent pas très bien la Maison Thirier. Mais alors, si on fait un petit tour de ceux qui viennent d'ailleurs, alors la Maison Thirier, ça fait partie de leur enfance.
Effectivement. L'histoire de la Maison Thirier, c'est une implantation effectivement provinciale, périurbaine, rurale, on l'a dit tout à l'heure. Et tout le match qu'on a à jouer aujourd'hui, c'est d'être plus présent dans les grosses agglomérations, notamment Paris. Mais sachez, Elisabeth, que nous livrons déjà à Paris, nous livrons dans toute la France.
Mais via Deliveroo ou via vous ?
Via Thirier, puisque nous, on est...
Ah, mais c'est ça, c'est-à-dire que vous avez... Voilà. Vous, même là-dessus, vous maîtrisez la chaîne de A à Z.
Alors, on est des fous de la maîtrise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on délègue peu. Pour vous situer, on a nos propres plateformes logistiques. Ce qui est très rare aussi dans ce domaine. On a nos propres magasins, nos propres centres de livraison à domicile, nos outils de fabrication et tout est nos propres salariés. Nos 3000 salariés sont on ne fait pas de franchise.
Oui, parce
on
que ne même, réussit que même quand le meilleur ouvrier de France, c'est un salarié.
C'est un salarié. Oui, on est très bon quand on est intégré. On a une culture d'intégrer.
Mais il faut qu'on le connaisse, vous connaisse
exactement.
Un petit peu plus et c'est aussi pour ça que vous êtes là,
exactement.
Nathalie Carré.
Oui, alors, moi je vous ai connue, moi je suis des Ardennes.
Ben
alors
voilà.
Dans mon village, il y avait le glacier Thirier qui passait sur la place de la Grand Rue, il y a le glacier Thirier, mais en fait je vous avais complètement oublié effectivement depuis qu'on est en Île-de-France, alors que vous êtes une institution chez nous. En revanche, j'ai regardé du coup sur votre système de livraison, vous livrez en une heure avec des rendez-vous. Et là, c'est encore une sacrée exception par rapport à tous les autres.
Alors, je vous prends un exemple. On a mis en place le click and collect. Alors, tout le monde aujourd'hui, si j'ai le click and collect, c'est génial. On l'a mis en place en 2009. En 1 heure. C'est-à-dire, vous passez votre commande, 1 heure après, elle est prête. Vous recevez en général un SMS 20 minutes après votre commande. Vous pouvez retirer. On a lancé les consignes surgelées, par exemple.
C'est quoi la consigne surgelée ?
Alors, la consigne surgelée, c'est... C'est dédié aux personnes qui sont très actives. Par exemple, vous travaillez peut-être jusqu'à 20h, 21h, vous passez votre commande sur Internet et une heure après, vous allez dans une consigne qui est positionnée à des endroits stratégiques.
C'est une consigne Thirier.
Thirier. Ah oui, on est intégré, hein, Elisabeth.
Oui, donc
on
fait
tout... Et donc, on est intégré. Donc, la consigne, vous retirez vos produits. Et donc, à l'heure que vous voulez, à minuit, à 23h, de sorte à ce que vous puissiez être totalement libéré des courses, mais aussi libéré de votre emploi du temps.
Vous êtes exceptionnel, on ne le savait pas tout ça. Donc, vous livrez à domicile, vous avez des consignes surgelées. C'est ça qui fait que ça marche ? C'est parce que c'est votre modèle de distribution aussi
en
qui
prend
pas ?
En fait, la marque a toujours été omnicanal. Monsieur Thirier, quand il a lancé cette belle entreprise, il a démarré par la livraison à domicile, ce qui explique d'ailleurs qu'on est moins présent dans les agglomérations, parce que la livraison à domicile faisait sens pour amener une solution. Parce qu'il y a aussi une dimension dans la livraison à domicile, il y a une dimension aussi sociétale de service dans des zones plus reculées, où maintenant il y a une paupérisation un petit peu de la ruralité, etc. Et on amène vraiment des solutions de proximité. Donc effectivement, cette force de frappe, alors je ne vous cache pas que notre match, c'est aussi d'être plus présent dans les grosses agglomérations, hein, pour y répondre aussi sur le format boutique, en plus de la livraison à domicile, et c'est tout l'enjeu qui nous attend.
Justement, vous avez ouvert des petites zones commerciales, hein, ce que vous nommez les food tech. Ce sont ces points de vente qui ont représenté tout de même, rien qu'en 2017, plus de 30 millions d'euros d'investissement. Ça marche bien ?
Alors, c'est des food place, exactement. La marque que l'on a déposée, c'est fabuleux. Alors, ça marche extrêmement bien, mais c'est surtout fabuleux comme expérience, puisque effectivement, nous créons des centres de vie alimentaire, premium.
En fait, c'est des mini-centres commerciaux.
Là aussi, c'est nous qui créons, c'est nous qui bâtissons, c'est nous qui livrons.
Donc des primeurs, des bouchers, des charcutiers, de tout le monde.
Et je sais qu'après, on va parler d'une personne qui s'est reconvertie dans les poulets de Bresse. Eh bien, on vit ça, nous. C'est-à-dire qu'on a parfois des ingénieurs qui étaient ingénieurs dans des produits laitiers, qui se lancent dans des fromageries. Donc on accompagne des jeunes pour se développer et se lancer dans une expérience métier de bouche qui nous passionne et qui correspond à
donc ça va au-delà du surgelé. Vous avez comme une mission aussi, hein.
Oui, on est une vraie entreprise à mission. Je ne sais pas si on aura le temps de parler des menus du bonheur, mais on a une volonté d'incarner la marque française référente en matière de bien manger.
Vous restez avec nous, Christiane Bertoncini, chaque jour dans La France Bouge. Nous, on aime revenir aussi sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'un produit qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Et aujourd'hui, on va parler du transport de nos produits surgelés, parce que là aussi, quand on se fait livrer, il faut que ça arrive bien comme il faut. Dans cette émission consacrée à nos produits surgelés, aujourd'hui, on va parler d'un fabricant de camions frigorifiques depuis 1965. Ça s'appelle Lambéré. Ce sont des poids lourds, il y a aussi des véhicules légers, et c'est la saga du jour.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Bonjour Quentin Paillet.
Bonjour Elisabeth.
Alors aujourd'hui, on part entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. Là-bas, on trouve une entreprise, Lambéré, qui fabrique des camions frigorifiques.
Oui, l'entreprise est créée par Marius Lambéré en 1935. C'est d'abord une entreprise de carrosserie industrielle. C'est l'époque où le transport routier se développe. Il faut adapter les fourgons au transport de marchandises. Mais ça n'est pas encore l'heure du transport frigorifique. Tout change en 1965, comme nous l'explique Cyril Abègue, directeur général de Lambéré.
Et dans les années 60, la société a vu l'opportunité de se spécialiser dans le transport frigorifique, puisque dans ces années-là, on commençait à faire attention et on ne transportait plus de la matière vivante ou des produits secs, mais on commençait à transporter de l'alimentation, donc des denrées périssables. Il fallait utiliser des moyens permettant de conserver de la chaîne du froid dès les années 60.
Alors, des camions frigorifiques, d'accord, mais moi j'ai l'impression qu'on en croise tous les jours sur la route. C'est quoi ? Ce sont des camions particuliers ?
Alors, à l'intérieur des véhicules, ce sont des mousses isolantes en polyuréthane, enrobées de panneaux en polyester. Cela permet l'isothermie, la conservation du froid.
Ah oui, on conserve au froid.
On a énormément fait évoluer les possibilités, les performances et puis surtout la complexité qu'il y a à l'intérieur d'un camion frigorifique, parce qu'à l'époque c'était relativement simple, c'était une grande caisse. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a 2, 3 compartiments différents, des parois amovibles, des choses pour permettre d'accrocher, des doubles étages, des cloisons longitudinales. En fait, c'est un véritable patchwork et jeu de Lego qui se trouve à l'intérieur d'une caisse frigorifique permettant de gérer des températures positives, négatives, tous différents types de chargements, tout ça pour l'adapter aux besoins des distributeurs et des grands logisticiens.
Alors globalement, Lambéré produit 2 gammes de véhicules, des utilitaires, des petits véhicules pour des traiteurs par exemple, et des semi-remorques pour des groupes de la grande distribution comme Intermarché ou le transporteur Steff. Et l'entreprise innove pour que ces véhicules soient plus respectueux de l'environnement.
Nous sommes une industrie qui suivons les évolutions sociétales et les évolutions de transformation de la société. Aujourd'hui, évidemment, on est très soumis à gérer une évolution de transition énergétique comme le reste du monde et le reste de la société. Jusqu'à aujourd'hui, les groupes frigorifiques étaient des groupes frigorifiques thermiques, donc avec carburant, et nous sommes en train de faire évoluer les groupes frigorifiques en groupes frigorifiques électriques avec des batteries additionnelles. Et donc, nous avons la capacité à fournir un véhicule totalement neutre et vert en termes de consommation d'énergie fossile.
Alors on l'a bien compris, Lambéré c'est une pépite française. Hein. Rien que sur son secteur, elle est leader en France. Il y a combien de camions de frigorifiques par an ?
Alors en 2021, elle a construit 6600 camions. C'est un bon chiffre malgré la crise sanitaire. Mais Lambéré voit plus grand, objectif 10 000 carrosseries d'ici 2 ans.
Merci Quentin Paillet pour cette saga du jour des camions frigorifiques Lambéré. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et vous, Christiane Bertoncini, directrice générale de la Maison Thiriez, vous aussi, au sein de la Maison Thiriez, vous avez 1000 camions qui sillonnent les routes de France pour livrer vos produits surgelés. Vous connaissez cette maison-là, la Maison Lambéré ?
Alors oui, on la connaît très bien, puisque pour tout vous révéler, nous sommes actuellement en discussion avec eux. Nous avons lancé un travail en profondeur pour imaginer avec eux, parce qu'ils sont vraiment très forts sur l'ingénierie, ils ont un bureau d'études incroyable, et on travaille avec eux actuellement sur le camion de demain.
Alors c'est quoi le camion de demain ?
Le camion de demain, il doit nécessairement être plus léger, moins polluant, et idéalement électrique. Nous testons déjà sur la ville de Nancy des camions électriques.
Donc ça, qu'ils soient frigorifiques ou pas, ça existe les camions électriques.
Exactement. La seule chose, c'est qu'actuellement, ils ont une autonomie de 100 km, donc ils ne peuvent s'envisager que sur des circuits extrêmement courts. Donc on y travaille, et là, on est vraiment en discussion avec eux, et vraiment, j'insiste, ils font un travail remarquable sur l'ingénierie et le développement.
Parce que si vous travaillez déjà sur le camion de demain, c'est que le circuit de distribution via la livraison, c'est quelque chose qui va se développer chez vous ?
Alors, ça a toujours été très fort, mais ça a été renforcé par, par la crise du Covid, évidemment, où on voit bien qu'il y a une explosion. Ce qui était presque ringard il y a 5-6 ans devient extrêmement moderne aujourd'hui.
C'était ringard de livrer du surgelé ?
Oui, enfin, pas forcément de livrer du surgelé, mais la livraison en campagne était toujours perçue comme quelque chose d'un petit peu dépassé. Mmh. Et d'un coup d'un seul, ça a été l'ultra-modernité. Mmh. Donc, et ça se développe fortement. Pour autant, livrer en campagne, ce qu'on fait, nécessite une maîtrise totale des flux logistiques, parce qu'il y a des distances relativement longues d'un client à l'autre, et il faut avoir un système d'optimisation des tournées extrêmement performant.
C'est compliqué. C'est quoi votre produit phare ? Quel produit que vous vendez le plus au sein
Alors,
de la maison
Thierry ? Écoutez, c'est la brioche, parce que c'est la brioche parisienne, c'est le produit emblématique de la marque. Il s'en mange une en France toutes les 4 secondes. C'est vraiment la recette exceptionnelle, et elle est exceptionnelle pour une seule raison.
C'est votre passé de boulanger, en fait.
Exactement.
Qui revient.
C'est l'origine.
C'est les racines qui reviennent.
Allez-y.
Tout à fait. C'est les racines qui reviennent. C'est le produit emblématique. Et il est emblématique pour une seule raison, c'est que nous avons adapté notre outil de fabrication à la recette et non pas l'inverse. Et ça donne, si vous voulez...
Ça veut dire quoi, ça ? On a adapté notre outil.
Eh bien, en général, quand vous faites de la production à plus grande échelle, en général, il y a un certain nombre de machines qui garantissent des systèmes de productivité, etc. Là, on a photographié les gestes métiers. On les a identifiés.
Et on a demandé cette brioche.
Voilà, et on a demandé à la robotisation, en tout cas à l'outil industriel, de reproduire à l'identique
les gestes.
Et quand vous voyez, si vous avez la chance de visiter notre atelier, la fabrication de la brioche, c'est exceptionnel. Le moment où on retrouve le geste de la scarification pour scarifier la pâte
au-dessus,
c'est magique, c'est assez
donc,
impressionnant.
Donc c'est la brioche, votre produit phare au sein de la maison de Thierry. J'aurais cru les glaces pour une...
Ils sont pas loin derrière, mais c'est quand même la brioche qui est indéfendable.
Vous restez avec nous, Christiane Bertoncini, directrice générale de la maison Thierry. Il est 13h43 sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour aujourd'hui. Elle est exigeante, attentive, bienveillante aussi. Hein. C'est une experte. C'est Christiane Bertoncini, directrice générale de la Maison Thirier. Nathalie Carré de la CCI, évidemment, est à mes côtés. Et aujourd'hui, on vous propose un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour, Mayana Elbaz.
Bonjour, Elisabeth.
Bienvenue dans la France Bouge. Vous avez 28 ans. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de persil et romarin. Alors d'abord, moi j'adore le nom. Ça donne envie de savoir ce qu'il y a derrière. Persil et romarin, ce sont des chefs qui viennent à la maison cuisiner tous nos plats de la semaine. Vous êtes bordelaise, Mayana. Votre passion, c'est la cuisine. Et sans études, sans diplôme dans la cuisine, vous êtes lancée, vous avez osé. Donc déjà, nous, on adore ça, la France bouge. Le reste, vous allez nous le raconter. Persil et romarin, c'est quoi ? Vous avez une minute.
Laissez-moi tout d'abord vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir ?
Je sais pas du tout.
Eh bien, avec persil et romarin, on répond à cette question éternelle en proposant un service de cuisinier en abonnement qui se déplace chez vous toutes les semaines pour préparer en une seule fois tous vos repas du quotidien. Aujourd'hui, en France, on peut faire appel à un service d'aide ménagère, à des services de nourrice, de jardinier. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'existe rien pour les cuisiner au quotidien. Et donc, avec persil et romarin, c'est possible. Concrètement, comment ça se passe ? Quand l'utilisateur se rend sur notre site internet persiléromarin.fr, il va nous faire une demande. On va lui répondre à son besoin en comprenant ses préférences, ses habitudes alimentaires, ses allergies, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas. Ensuite, un chef se rendra chez lui toutes les semaines et le client n'aura plus qu'à déguster tout au long de la semaine ses repas du quotidien et recommence la semaine suivante. Aujourd'hui, notre ambition avec Persil et Romarin, c'est 3 choses. C'est déjà de dire que oui, c'est possible de faire appel à un chef chez soi pour la cuisine du quotidien, que oui, c'est accessible, et que oui, c'est possible de vivre de sa passion pour la cuisine facilement et simplement.
Bravo et merci Mayana pour votre pitch Persil et Romarin. Est-ce qu'elle a donné les prix, Nathalie ?
Non, mais quand elle va les donner, vous allez réserver.
Bon, d'accord, je crois que le prix moyen, c'est de 150€ la semaine.
Exactement, et c'est 75€ après crédit d'impôt.
Avec les courses déjà inclus ?
Non, les courses sont en plus,
c'est moi.
Et ça va le chef s'en occupe. Il s'occupe de tout pour vous, vous avez juste à mettre les pieds sous la table, et les courses sont facturées en réel en fonction de ce dont vous avez envie.
On adore ça, Nathalie. Hein.
Ah mais complètement. Moi j'ai mis un mail pour, mais c'est pas encore apparu.
Non, c'est que à Bordeaux pour l'instant. Mais bon, il n'empêche que Nathalie, vous avez analysé le projet Persil et Romarin. Quelles sont les forces et les faiblesses ?
Eh ben, l'effort, ça, c'est vraiment le, alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le batch cooking. En fait, ça fait quand même 40 ans que tout le monde fait ça, le cuisiner le week-end pour la semaine. Voilà. Bon, et maintenant, c'est super à la mode. Donc là, vous sous-traitez le batch cooking. C'est le bonheur absolu. Le prix est accessible puisqu'on gagne le temps des courses, le temps de la cuisine, le temps de la vaisselle et du rangement puisqu'on récupère notre cuisine nickel chrome. Et puis, c'est une excellente idée de proposer une formation de chef à domicile pour les cuisiniers en herbe qui pourraient arrondir leur fin de mois en cuisinant chez vos clients puisque vous ne réservez pas votre prestation à des chefs diplômés qui sont reconnus par l'État. Alors, quelques suggestions. Déjà, deux petits points de détail sur le site. La simulation, j'ai demandé moi 5 plats pour 6 personnes. Vous me dites qu'il faut une prestation de 4 heures. Bon, outre le fait que j'étais très vexée parce que moi, je mets beaucoup plus que 4 heures pour cuisiner pour la semaine. Mais du coup, on se demande effectivement les recettes. N'hésitez pas à valoriser dans ces cas-là vos cuisiniers avec leur histoire et leurs 2-3 plats fétiches pour qu'on n'ait pas l'impression que ça va être des plats un peu rapide et donc peut-être qui manquerait un peu de saveur. Et puis en plus, cette valorisation de vos cuisiniers, ça aide au référencement naturel. Pour les courses, est-ce qu'on peut faire certaines courses nous-mêmes? Parce que vous savez, on a toujours notre petit producteur de viande, de fruits qu'on adore et qu'on voudrait garder, par exemple, pour le développement. Vous êtes à Bordeaux, on l'a dit. Donc vous pourriez peut-être faire une carte de France interactive des départements et indiquer pour chaque département ville le nombre de demandes que vous avez reçues. Je ne sais pas s'il vous faut au moins 50 clients pour être rentable sur une ville, par exemple, enfin sur un territoire dans lequel vous voulez vous lancer. Et ça inciterait en fait les personnes intéressées à communiquer sur votre offre auprès de leur propre réseau pour trouver de nouveaux prospects, pour arriver à votre seuil de rentabilité de clients. La formation, c'est une excellente idée, mais elle peut être un frein aux cuisiniers amateurs. Vous pouvez peut-être imaginer de la formation en situation de travail où les nouveaux cuisiniers en fait, sont tutorés pendant leur première prestation par un cuisinier aguerri. Non seulement ils seraient formés à vos pratiques, mais ça permettrait aussi le transfert de la culture de votre entreprise et ils peuvent aussi avoir une certification de compétences. Et comme d'habitude, j'étais très déçue, vous n'êtes pas la seule entreprise à proposer ce service, mais vous êtes beaucoup moins cher. Et il se dégage chez vous un côté cool, un côté à la bonne franquette, qui est renforcé par votre volonté de faire travailler des non-professionnels. Chez les autres, on sent bien qu'ils cherchent un positionnement un peu plus VIP.
Un peu plus haut de gamme, oui.
Et donc finalement, persil et romarin, c'est le cuisinier du quotidien tout inclus et sans chichi qui redonne du temps et redonne le sourire quand on nous demande « qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman ?»
C'est super. Hein, elle a tout compris, Nathalie.
Exactement. Merci beaucoup pour ce beau slogan de la fin qu'on n'hésitera pas à reprendre si vous le permettez.
C'est gratos.
Oui, là, c'est gratuit. Alors que normalement, c'est très payant. Mais bon, là c'est justement c'est l'objet de la France Bouge.
Merci. Est-ce que je peux rebondir?
Bien évidemment, on attend vos réactions.
Effectivement, alors sur la partie de la formation à la fin dont vous parliez, c'est un gros sujet pour nous. On vient de la lancer. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que cette formation, elle est vraiment orientée pour les amateurs de cuisine, les passionnés qui rêveraient de pouvoir vivre de ce métier, mais qui n'ont pas forcément, qui se retrouvent pas dans la restauration classique avec les contraintes.
Oui, parce que là, ils choisissent. J'imagine que c'est des auto-entrepreneurs, les chefs que vous avez.
Indépendants, exactement.
Il y en a combien, là?
Alors, aujourd'hui, on a 8 chefs sur Bordeaux.
Ah, quand même. Et quand est-ce que vous venez, alors, un peu partout en France?
Eh bien, écoutez, c'est le but du jour. Je pourrais en parler juste après, si vous voulez.
Votre souhait, c'est de vous développer.
Notre souhait, c'est de nous développer. Besoin d'aide, c'est une ouverture au capital pour augmenter nos capacités en communication et surtout développer le service dans toutes les villes de France.
Dans toutes les villes de France. Et c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Christiane Bertoncini, directrice générale de la Maison Thirier, votre regard sur cette start-up?
Bah écoutez, je trouve ça fabuleux déjà parce que c'est bien que les jeunes innovent, se lancent. Je trouve ça assez incroyable. Et puis, ça répond vraiment à une problématique du moment, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir.
Bon, avec vous, on décongèle et on mange. Hein.
Voilà, il y a une solution.
Et justement, je voulais vous demander, Christiane Bertoncini, on assiste en ce moment à une inflation généralisée, à la hausse des produits alimentaires. Comment vous les répercutez sur vos plats?
Alors écoutez, nous, on a une chance pour l'instant, mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir cet engagement jusqu'à la fin de l'année. C'est qu'à partir du moment où on a 220 000 mètres cubes de stockage de froid, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du stockage spéculatif. Si bien qu'on a pu rentrer beaucoup de marchandises, toujours grâce à nos propres outils, à d'anciens prix. Si bien que jusqu'à présent, nous n'avons répercuté que 0,9% d'inflation. Quand l'inflation, elle se situe, vous le savez, hein, je sais, aux alentours de 4,8% sur l'alimentaire.
Donc 0,09% pour l'instant, ça va durer jusqu'à quand?
Ah, je pense qu'on peut tenir encore un mois et demi, après, on va être obligé de répercuter puisque mes stocks, je vais arriver à épuisement de mes stocks spéculatifs et je vais rentrer effectivement dans les nouvelles conditions d'achat où là vraiment, actuellement, c'est très simple. Si vous refusez une offre fournisseur, vous êtes en pénurie. Il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de négo actuellement, malheureusement. Et donc, c'est vraiment problématique.
C'est voilà. Vous reviendrez nous en parler parce que c'est absolument passionnant ce que vous nous dites, Christiane Bertoncini. Mayana Elbaz, nous, on vous souhaite bonne chance avec persil et romarin. On a tous validé, on va tous commander vos chefs.
Enfin, on attend.
Ou alors on ira à Bordeaux et on fera en sorte de pouvoir les rencontrer. Donnez-nous de vos nouvelles.
Avec plaisir. Hein, et si vous voulez nous aider à faire développer ce service dans votre ville, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour remplir un formulaire de préinscription. La ville qui aura le plus de préinscriptions sera la première ouverte fin 2022.
C'est pas mal, c'est malin ça. Persil et romarin. Merci Mayana Elbaz d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse.
Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures.
Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin. On aura évidemment l'occasion de vous en reparler. Il est 13h54 sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. On est toujours avec vous, Christiane Bertoncini, directrice générale de la Maison Thirier. Et nous, à La France bouge, Christiane Bertoncini, on aime découvrir les parcours professionnels, les parcours de vie qui nous inspirent, qui nous étonnent. Et aujourd'hui, on va en parler avec vous, Pauline Badin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez 31 ans, vous êtes basée dans le Jura. Et vous, si vous êtes en direct dans La France bouge, c'est parce que vous avez osé changer de vie professionnelle. Vous avez une licence en management du sport. Vous avez toujours voulu travailler dans la communication. Et donc, après vos études, vous avez été embauchée en tant que chargée de communication pour un comité régional sportif à Montpellier. Tout cela a duré 8 ans.
Oui,
et vous étiez très heureuse.
Et très heureuse, très épanouie dans mon travail.
Ouais, très épanouie, mais il n'empêche, derrière tout cela, il y a votre famille, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents sont tous éleveurs en volaille de volaille de Bresse. Les terres agricoles appartiennent toujours à la famille. Et petit à petit, vous avez eu envie de retrouver les terres familiales, c'est un petit peu ça.
C'est un petit peu ça, revenir aux sources et puis repartir avec un projet qui avait un petit peu plus de sens pour moi, faire quelque chose d'utile aussi aux autres en produisant des bons produits locaux, ancrés dans le territoire. Mmh. Et faire perdurer un savoir-faire familial.
Familial. Et puis pour arriver à tout cela, il y a eu un déclic. Le déclic, ça a été l'arrivée d'un bébé et le confinement.
Voilà, c'est ça. Les deux ensemble, ça
peut aider.
Ça peut aider, ça remet un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, ouais. et on repart avec d'autres envies.
Mais pour tout ça, enfin, vous nous dites ça comme ça, je vais aller élever des poulets de Bresse dans le Jura, mais il faut une formation, enfin, ça ne s'invente pas, c'est un métier. Même si vos grands-parents l'ont toujours fait, enfin, c'est compliqué quand même.
Oui, surtout quand on ne l'a jamais fait, il y a quand même un vrai savoir, des vraies connaissances techniques. Donc j'ai suivi plusieurs formations, une formation spécifique à l'élevage de volailles de Bresse, parce qu'on est sur une volaille avec un AOP, donc il y a un cahier des charges, il y a un savoir-faire. Et puis une formation plus générale pour devenir responsable d'exploitation agricole, parce que je vais devenir chef d'entreprise, et donc il faut pouvoir prendre des décisions, comprendre ce qui se passe dans son entreprise.
Aucun regret là, parce que là vous êtes toujours en cours de reconversion, vous êtes encore sur les bancs de l'école. Aucun regret, dire quand vous repensez à votre vie dans la com événementielle, tout ça c'est terminé.
Tout ça c'est terminé, même si la communication me servira évidemment pour mon projet. Mais non, aucun regret, très contente et je me sens à ma place.
Se sentir à sa place, hein, c'est ce que nous disent à chaque fois les personnes qui ont osé la reconversion professionnelle. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs qui ont envie de changer de vie, ce serait lequel ?
Eh ben, le plus dur, c'est de franchir le pas, d'oser. Et après, si on a envie, si on se donne les moyens, tout devient impossible. Il y a plein de dispositifs pour les transitions pro. Et encore plus dans le monde agricole, il y a plein de choses pour vous aider à s'installer, pour développer vos idées. Donc, il faut oser.
Il faut oser parce qu'à La France bouge, on le voit chaque jour. Tout est possible. Merci Pauline Badin. Vous étiez dans la communication et aujourd'hui, vous élevez des poulets de Bresse dans le Jura. C'est déjà la fin de votre émission. Christiane Bertoncini, merci d'être venue aujourd'hui dans La France bouge. Vous êtes la directrice générale de la maison Thirier. Maintenant, on ne va plus voir cette maison comme avant. hein. Ben, on en sait beaucoup merci plus. Vous, je rappelle que vous êtes fabricant et distributeur. C'est ce qui vous différencie des autres. Nathalie, nous, on se retrouve lundi avec la patronne des éditions Glénat. Vous savez, on va explorer l'univers des bandes dessinées. Les mangas. Ils affichent une croissance exponentielle depuis la crise sanitaire. On va tout comprendre lundi avec la patronne des éditions Glénat. Tout de suite, le flash, suivi de Christophe Ondelat.